Matière à penser, Patrick Boucheron.
Bonsoir, c'est le dernier jour de cette semaine dense, intense, consacrée à la consistance d'une... Et nous la terminons non pas en fanfare, je crois qu'elle déteste les fanfares, mais en baroque sarabande. C'est le titre de son dernier livre paru chez Philippe Ray avec Christiane Taubira. C'est un grand plaisir et un grand honneur de vous accueillir. Bonsoir Christiane.
Merci pour cet accueil. Bonsoir Patrick Boucheron.
Comment doit-on vous présenter ? Femme politique, c'est un métier ça ?
Ah non, heureusement. Heureusement. Non, c'est un engagement.
C'est un engagement.
C'est profondément un engagement. Et il prend des formes multiples.
Et aujourd'hui ?
Mais aujourd'hui, je conserve mes engagements politiques, je suis plus intranquille que jamais, je suis encore plus désireuse d'embrasser le monde, d'essayer de l'étreindre, plus travaillée encore que par le passé par la nécessité de combattre les injustices, plus soucieuse encore de l'égalité, plus clairvoyante aussi sur ce que j'appelle à la fois ma conception, enfin pas à la fois, mais l'une après l'autre, ma conception ontologique, ma conception anthropologique, ma conception politique de l'égalité. Donc je suis tracassée par tout cela et j'entretiens cette intranquillité.
Vous êtes tracassée, vous êtes inconsolable parfois, dites-vous, et pourtant avec une énergie pour défendre ce qui semble se dérober, cette inégalité au fond qui est aujourd'hui, comment vous la voyez, cette société dans laquelle on vit et où on ne parvient plus au fond à faire de la lutte contre les inégalités l'évidence au fond d'un combat politique?
Alors il faut reconnaître qu'on s'est beaucoup accoutumé aux injustices, aux inégalités, à la violence même, on s'y est habitué. Moi j'essaie de saisir le monde, alors d'abord de comprendre le monde, ensuite j'avance par palier ou je reviens par palier. J'avance à partir de la société, alors ma société, mon bain de hasard d'ailleurs, oui. C'est la Guyane, c'est là que je suis née, mais c'est là que j'ai mes premiers repères, c'est là que j'ai mes assises solides, c'est là que j'ai mes premiers souvenirs, bien entendu.
Donc, de militance.
Absolument.
Donc, vous n'avez pas peur de ce mot militante?
Ah non, je l'assume parfaitement et je pense qu'il faut militer, pour des causes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas papillonner, il ne faut pas juste apparaître, il faut dans la continuité, dans la constance, dans la durée, montrer ses engagements, expliciter ses choix. Donc oui, j'assume très clairement.
Cessons de folâtrer, écrit-on, avez-vous écrit dans Baroque Sarabande. Et pourtant, on va quand même un peu papillonner, parce que c'est de ça dont il s'agit, Christiane Taubira, c'est de la manière dont, au fond, la poésie nous est non pas seulement une consolation ou une ressource, mais véritablement un engagement pour vous.
Ah, la poésie, d'abord, c'est une source de bonheur, c'est une source permanente de bonheur, c'est une source d'apaisement, c'est une source d'inquiétude, c'est la poésie a absolument toutes les fonctions. Il y a des tas de définitions de la poésie qui ont été élaborées par des auteurs de très grande qualité. Je pourrais les reprendre. Je pense à Derek Walcott, je pense à Édouard Glissant. Donc il y a des définitions très très éblouissantes de la poésie. Mais moi, mon rapport à la poésie, c'est une compagne d'une fidélité, d'une disponibilité, d'une présence, une compagne, dans tous les cas, lorsqu'il faut rire, lorsqu'il faut chanter, lorsqu'il faut se fâcher, lorsqu'il faut hurler, lorsqu'il faut pleurer, la poésie aide.
Ils sont là, tous vos auteurs. Ils ne se bousculent pas, ce ne sont pas gens à bousculade. Ni fous ni sages, ils auraient pu vaquer ailleurs, mais ils sont là parce qu'ils sont fidèles. Pas pour ce combat-ci en particulier, simplement depuis toujours. Vous écrivez dans Baroque Sarabande, publié chez Philippe Ray, Christiane Taubira, au fond, la collection bienveillante de ces amis invisibles, qui sont vos auteurs, ils sont tous là.
Oui, ils sont tous là et dans toutes les situations, ils ont été là. En tout cas, ceux dont j'ai eu besoin ont été là. C'est une espèce de complicité, une complicité implicite. Nous ne nous sommes pas parlé, mais ils sont là. Et je sais que je peux compter sur eux, je sais que je peux m'appuyer sur eux. Et en fait, je ne le savais pas. Je le sais parce qu'on me l'a dit d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'à force d'entendre l'étonnement des personnes face à des citations que je fais dans des meetings, dans des combats, dans des moments de rire, dans des moments de douleur, j'ai compris que les auteurs étaient là. Oui. En fait, je vivais avec eux. Ils étaient à mes côtés. Je trouvais ça tout naturel. Donc j'étais une ingrate.
Donc on vous disait que vous étiez lyrique, mais vous ne le saviez pas en fait. On vous disait que vous citiez tout le temps des auteurs, mais vous ne vous en rendiez pas compte.
Je ne me rendais pas compte que ça pouvait être étonnant.
Oui.
Voilà. Mais évidemment, j'étais ravie de les citer, j'étais ravie qu'ils me viennent au moment où je parle, mais je ne me rendais pas compte que... voilà, que c'était un peu inhabituel d'une certaine façon, et notamment pour une personne qui porte haut ses combats politiques, qui porte haut les causes qu'elle a choisies. Donc moi j'ai choisi des combats, je les ai menés, j'ai pris des coups, parfois terribles, mais j'ai choisi d'aller livrer ces batailles-là. Chaque fois que je les ai livrées, je les ai choisies. Donc et j'ai toujours eu ces auteurs, femmes et hommes, à mes côtés.
Vous venez de citer Édouard Glissant. On pourrait commencer par plein d'auteurs, mais celui-là, pourquoi pas? Parce que il pose la question des noms, justement. En bien des occasions, dans ses textes, il dit ne pas vouloir se satisfaire de noms évidents. Il dit vouloir compliquer les généalogies trompeuses. Il dit que les noms doivent être prodigieusement folâtres. Tiens, ça, c'est un de ses mots, et c'est aussi le vôtre, qui doivent voler sur le monde comme des papillons qui déclenchent des tempêtes ailleurs. C'est quand même une grande source d'inspiration pour vous, Glissant.
Infiniment. Édouard Glissant, alors j'ai trouvé sa pensée complexe lorsque j'y suis entrée pour la première fois, il y a très très longtemps, bien entendu. Je l'ai trouvé complexe, mais il y avait quelque chose d'extraordinairement attrayant. Donc, cette complexité, elle vous aspire, elle vous donne envie d'aller au-delà. Et c'est vraiment, c'est le penseur de l'opacité. C'est un auteur qui ne se contente pas de l'évidence des choses, de la simplicité des choses. Il est décortique, il les bouscule, il les explore. Et puis on sent des cheminements, on sent des méandres, on perçoit des méandres. On sent bien ces interrogations profondes. On perçoit à quel point elle le perfore lui-même. Et il jaillit de ces interrogations une clarté éblouissante, vraiment, vraiment. J'aime beaucoup la pensée d'Édouard Glissant, qui dit d'ailleurs que le monde est imprévisible et imprédictible. Et moi qui constamment m'interroge sur le monde, parce que j'ai porté en moi, intuitivement d'abord, avant que ça devienne à la fois construit et rationnel, intuitivement j'ai porté en moi une conscience du monde. Pour une raison toute simple, c'est qu'étant née en Amazonie, étant récusée dans la société guyanaise, récusée socialement et culturellement, il me fallait de la survie, il me fallait un chemin de survie.
Pourquoi récusé?
Parce que je viens de milieu modeste, je viens d'une famille monoparentale, et le regard social est impitoyable parce que c'est une société, c'est une ancienne société coloniale. C'est une ancienne société où a été pratiqué l'esclavage. Donc c'est une société où la couleur de peau marque socialement.
Et quand Glissant, par exemple, dit qu'il faut marronner, c'est-à-dire prendre des chemins de traverse...
Je sais ce que ça veut dire,
ce n'est pas une métaphore.
Hein, ah non, ça n'est pas une métaphore. Il faut vraiment marronner. Il faut échapper à la chape qu'on vous met sur la tête. Vous n'êtes rien du tout, vous êtes une fille de Cham. Cham a été maudit par Noé, et toute sa descendance qui est censée devenir noire sera soumise à la descendance de ses frères. Donc il vous faut échapper à ça. C'est d'une violence extraordinaire lorsque vous êtes une enfant et qu'on vous l'enseigne de la façon la plus sérieuse et à partir de l'autorité du savant, du sachant, de l'enseignant. Donc vous avez ça, vous êtes remis en cause, votre existence elle-même est récusée. Vous n'avez pas le droit d'être là. Et sur cela s'ajoutent des violences ordinaires, ta coiffure de négresse, ta maman, vit dans le péché. Vous avez ces violences-là au quotidien. Comment vous survivez quand vous êtes une enfant? Bon, d'abord, moi, j'ai un capital de joie absolument inépuisable. J'ai un capital de joie de vivre qui... Vous rassemblez toutes les planètes de la Terre, l'univers, vous le multipliez par 100 000, vous n'avez pas encore atteint ma dose de joie de vivre.
Et c'est ça qui vous donne cette force d'adversité contre la méchanceté des
temps,
parce
rien.
Que quand même, vous n'avez peur
je
de rien.
Je n'ai peur de rien. J'ai décidé il y a très très longtemps que j'étais invincible. Et je suis invincible. Et je travaille mon invulnérabilité. Je la travaille par la rigueur, par l'attention aux autres, par le souci de la clarté dans mes pensées, dans mon expression. Je travaille cette invulnérabilité par l'exigence que j'ai vis-à-vis de moi-même et par le contrat que j'ai avec ma conscience.
Il y a souvent dans vos écrits, murmure à la jeunesse, nous habitons la terre, baroque sarabande pour parler des derniers, Christiane Taubira, cette proclamation au fond de la puissance invaincue des faibles. Cette idée que ce sont eux, au fond, qui vont soulever le monde par, justement, ce que Glissant appelait le marronnage, ou par, ce que Mandela disait, la nécessité, au fond, des opprimés de libérer leurs oppresseurs. Ce qui est, au fond, extravagant comme ambition, mais c'est la vôtre.
Oui, absolument, absolument, mais parce que j'ai lu de grands auteurs. Alors Mandela le disait incontestablement, et il a démontré, il ne s'est pas contenté de le dire, il a démontré, il a eu le souci de réhumaniser ceux qui opprimaient, ceux qui dominaient, ceux qui avaient fait adopter les lois d'apartheid.
Vous étiez en 94,
Oui, j'étais observatrice internationale.
Vous étiez observatrice pour les premières élections libres. Multiraciales.
Oui.
Et ça, c'est une expérience.
C'est inouï, c'est incomparable, c'est la plus belle de ma vie jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment la plus belle de ma vie jusqu'à aujourd'hui. D'abord, lorsque j'ai foulé pour la première fois le sol de l'Afrique du Sud, entre-temps, depuis, j'y suis allée 8 fois. Mais la première fois, ce qui m'a le plus frappée, alors qu'il y avait une ambiance de violence, il y avait eu un attentat à l'aéroport une demi-heure avant notre arrivée, il y en a eu une demi-heure avant encore le lendemain au siège de l'antenne de l'ONU, parce que nous avions des débriefings avec les Nations Unies.
Oui, parce que ce qu'on a oublié, c'est qu'entre 91 et 94, au fond, c'est des années terriblement violentes,
extrêmement violentes.
Et donc tout peut se retourner à tout moment,
y compris pendant cette période d'élection, y compris pendant le week-end des élections. Et je circule dans ce pays et je reconnais tout. Je reconnais tout parce que j'ai lu la littérature d'Afrique du Sud et je réalise le génie des auteurs sud-africain. Je reconnais tout. Je reconnais les paysages, je reconnais les odeurs, je reconnais les fleurs, les arbres. Je reconnais absolument tout. Je reconnais les rues, je reconnais les bidonvilles. Je reconnais tout. J'ai vraiment un sentiment extraordinairement étrange et enthousiasmant d'être pas vraiment chez moi en tout cas, mais un peu dans un lieu familier. Voilà, d'être dans un lieu familier. Et j'assiste évidemment à l'échange de drapeaux la nuit du samedi. Je fais mon travail avec les autres de contrôle du déroulement du scrutin. J'assiste évidemment après au discours de Nelson Mandela. C'est une expérience absolument inoubliable. Et Nelson Mandela est immense. Il est immense. Il est démesuré. Il est démesuré. Et cette pensée, on la retrouve. Et moi, elle m'accompagne depuis très longtemps. Parce que elle est la pensée de Fanon dit cela aussi. Les pensées élaborées, même Albert Memmi, les pensées élaborées sur la colonisation, le colonisé, sur l'esclavage, ce sont des pensées, lorsqu'elles sont profondément humaines et humanistes, ces pensées-là, elles disent l'oppression, et dans les combats des Africains-Américains aussi, Martin Luther King également, l'oppression déshumanise la personne soumise, donc l'esclave ou quelle que soit la personne soumise, mais aussi l'oppresseur. Et la liberté ne peut être acquise que si on réhumanise l'oppresseur. Et dans une folie libératrice extraordinairement généreuse, ces opprimés décident qu'il faudra libérer l'oppresseur.
Et ça, vous l'avez vu.
Moi,
et ça, vous
y étiez. Je l'ai vu et du coup, je sais que c'est...
Vous savez que c'est possible.
Je sais que c'est le chemin. Je sais surtout que c'est le chemin.
Et de ce jour, j'y reviens, pardon, Christiane Taubira, naît peut-être chez vous la certitude qu'une parole politique peut faire des miracles.
Oh oui, Patrick Boucheron, oui.
Oui.
Oui, parce que je crois au verbe, je crois profondément à la parole transformatrice, je crois à la parole, j'ai lu aussi, mais j'y croyais déjà quand j'ai lu Svetan Todorov, qui explique comment les mots sont des événements, sont des actes.
Faire des choses avec
parce
les mots.
Que, voilà, et parce qu'ils génèrent en fait des actes. C'est-à-dire qu'on conduit les gens avec les mots, on peut conduire les gens à agir. Et c'est la question de la responsabilité, et de la responsabilité morale qui est posée depuis des générations dans des situations extrêmement diverses et qui nous préoccupent ici également. Donc oui, je sais que les mots comptent, ils doivent être précis, ils doivent être beaux.
Et donc vous allez chercher dans la poésie des leçons d'exactitude et d'efficacité.
Je ne vais pas les chercher à proprement parler, Patrick Boucheron. Je les trouve d'abord parce qu'ils sont là. Donc je les accueille, je les reçois, je les laisse entrer en moi, je les laisse s'installer, s'en aller aussi. Parfois ils ne restent pas.
C'est ce que Glissant appelle folâtrer, quand même.
Oui, mais
vous voyez qu'on papillonne.
Je crois essentiel de folâtrer. Et pour la petite histoire, je taquinais mes officiers de sécurité. Je leur disais qu'enfin j'entrais au ministère et que je pouvais souffler un peu parce qu'évidemment ils ne me lâchaient pas d'une semelle. Je disais ça y est, maintenant vous pouvez aller folâtrer. Vous pouvez batifoler. Allez-y. Donc non, je crois que c'est essentiel de folâtrer. C'est essentiel de lâcher prise tout en conservant son intranquillité. Mais il faut lâcher prise. Il faut rêver. J'ai beaucoup, même pas rêver, rêvasser. Il faut rêver aussi, mais il faut rêvasser. Il faut se laisser aller, laisser la pensée vagabonder, gambader, folâtrer, vraiment.
On parlait du nom. On parlait du nom propre, de cette baroque sarabande de nom propre qui vous accompagne, qui vous environne, qui vous encourage. Votre nom, Christiane Taubira, désigne deux lois. C'est pas rien quand même. Deux lois de la République. Dans l'esclavage raconté à ma fille, qui a été d'abord écrit en 2001, c'est ça? Après.
Première lecture 99, adoption définitive en 2001.
Eh bien donc, votre fille vous pose la question, mais grâce à ta loi, la traite et l'esclavage seront enfin reconnus comme crimes contre l'humanité. Et vous répondez, ce n'est pas ma loi. Il y a une habitude qui consiste à coller à une loi le nom de l'auteur de la proposition, etc. Mais ça m'intéresse quand même, cette nomination. Vous êtes, voilà, c'est pour nous, c'est la loi Taubira.
Oui, et puis pour le monde entier, parce que où que j'aille, on m'en parle. C'est le monde entier, parce que le monde a été configuré, en tout cas le monde contemporain a été profondément configuré par la période de la traite négrière, de l'esclavage, profondément. Sinon, on ne comprend pas la présence des langues européennes en Amérique du Sud. On ne comprend pas les communautés humaines qui existent aux Amériques. On ne comprend pas le découpage de l'Afrique. On ne comprend pas non plus que d'abord les révolutions industrielles en Europe, ni le fait que les peuples européens soient devenus des peuples pluriels, que ce soit des communautés plurielles. On ne comprend rien à tout ça si on ne sait pas l'histoire de la traite négrière, de l'esclavage. Donc partout, c'est une histoire qui a laissé des traces, de sorte que quel que soit le pays où je vais, on m'en parle. Et effectivement, on me parle de la loi Taubira. Donc là, je fais œuvre pédagogique. Donc j'explique pourquoi on accole un nom à un texte de loi. Mais vis-à-vis des adolescentes et des adolescents, je veux leur donner la conscience que les lois sont les lois de la République.
Article 1er, la République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l'océan Indien d'une part et l'esclavage d'autre part perpétré à partir du 15e siècle aux Amériques et aux Caraïbes dans l'océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constitue un crime contre l'humanité.
Constitue au présent.
Et ça, chaque mot, évidemment, est un combat. Derrière chaque mot, il y a une querelle.
Cette bataille, ce débat législatif a été une bataille terrible. J'en ai tiré des séquelles physiques. Parce qu'il faut savoir que je me bats avec tout. Donc je me bats aussi avec mon corps. Et je somatise. Donc je pense que les personnes normales somatisent. Donc mon corps me signale lorsque je ne suis pas bien, lorsque je rassemble mes forces, que je marque bout et que je m'apprête à donner l'assaut, mon corps est tout tendu. Bon. Et pour ça, je me suis tordue une cheville, donc j'ai eu des béquilles pendant 6 mois, mais bon voilà, donc mon corps a beaucoup participé. J'en étais torturée pendant les 6 mois où je préparais, où je relisais tous les ouvrages de très grande qualité qui me permettaient d'être précise, d'être exacte dans mes réponses, d'apporter des éclairages, donc d'en faire une cause digne, une cause aussi fidèle aux femmes et aux hommes qui ont subi la traite négrière et l'esclavage, aux femmes et aux hommes qui, à cette époque-là, ont refusé, y compris lorsque leur gouvernement, leur monarchie, pratiquait la traite négrière et l'esclavage, refusait, contestait. Je dois être fidèle, voilà, j'ai des loyautés à entretenir là, je dois être fidèle aux femmes et aux hommes qui ont subi la traite négrière ou l'esclavage, aux femmes et aux hommes qui ont marronné, hein, ces fameux nègres marrons et négresses marronnes, et à leurs sœurs et frères d'Europe, qui ont été des abolitionnistes, avant même que les mouvements abolitionnistes s'organisent en tant que tels, mais qui ont été des consciences humaines qui ont dit non, non, ce sont des frères et des sœurs, non, ce sont des êtres humains que vous traitez en marchandises. Donc je leur dois cette fidélité, et lorsque je prends une cause de cette nature, je m'impose à moi vraiment une extrême rigueur, je m'impose d'être à la hauteur des meilleurs de celles et de ceux qui ont eu à subir ou de celles et de ceux qui se sont battus. Donc je ne sais pas si j'y parviens, mais je fais tout pour y tendre. Et donc mon corps, voilà, mon corps, je suis pas un grand corps, hein, vous voyez ça, hein, Patrick?
Oui, je vois.
Je n'ai pas un grand corps, il n'est pas robuste, mais en tout cas, il n'est pas, mais il est robuste. Voilà, il n'est pas, je sais pas quoi, hein, il n'est pas impressionnant.
Ah
il
bah
est
si,
robuste
en vélo
parce que
à la maison de la radio, c'est quand même très impressionnant, Christiane Taubira.
J'ai encaissé tellement, tellement de coups et mon corps tient, quoi. Il tient le coup.
Et là, on peut peut-être encore parler d'Edouard Glissant qui disait que la souffrance est un accès à la relation, mais n'est pas une élection. C'est-à-dire qu'elle ne donne pas de droit. Et c'est peut-être cela qu'on peut répondre à ceux qui craignent parfois de bonne foi, parce que cette loi a pu être critiquée, ce qu'ils appelaient la concurrence des mémoires.
Alors moi, je,
comment
je,
vous voyez ça? Comment vous le...
Je pense comme Edouard Glissant, et je le pensais d'avoir lu Edouard Glissant, probablement d'expérience. Avant d'avoir lu, parce que ça, il développe cet aspect-là, je crois, dans « Mémoire des esclavages »,
oui,
hein, dans cet ouvrage qu'il a écrit en 2006, me semble-t-il. Il développe ce point de vue. Je le pensais déjà, je crois, d'expérience. Je pensais déjà que d'avoir autant souffert ou d'avoir une telle conscience de la souffrance, ça vous donne d'abord un devoir d'empathie. D'abord, ça vous rend plus empathique, je crois. Ensuite, ça vous donne un devoir d'empathie. Et je crois qu'effectivement, ça n'offre pas de créance, mais plutôt des dettes. Plutôt des dettes. On sait ce qu'est la souffrance et on ne veut pas de la souffrance pour l'autre. On est sensible à l'autre. Moi, mes premières larmes d'enfant sur la souffrance humaine qui pourrait paraître abstraite au sens où elle était loin physiquement de moi, enfant, je les ai versées sur la Shoah. Mes premières larmes d'enfant, je les ai versées sur la Shoah. Je suis née après la Deuxième Guerre mondiale, mais je me souviens qu'à l'école, on nous faisait défaire des petits morceaux de tissu. Et on nous expliquait que on enlève fil par fil ces petits morceaux de tissu et qu'on va en faire du coton et que ce coton-là, cette façon de faire, cette espèce d'artisanat, c'est une façon de faire pendant la guerre parce qu'il manque de tout pendant la guerre, c'est le dénuement en général et que voilà tout le monde s'y met et fait comme ça et voilà ce qu'était la guerre. Et je me souviens qu'on nous passait des diapositives avec des collines comme ça de corps humains. Ou alors les cheveux, et puis on nous expliquait qu'on en avait fabriqué du savon. Et je me souviens comment dans la classe, je suis assise là et les larmes coulaient. Mais j'ai pas compris la Shoah à l'époque, bien entendu. J'ai juste compris qu'on avait fait ça à des personnes, et que ces personnes étaient démunies, et que ces personnes, voilà. J'ai juste compris ça. Donc pour moi, la souffrance, donc voilà, j'ai souffert par empathie. J'ai souffert par empathie. Et c'est longtemps, des années après que je découvre l'histoire de la traite négrière de l'esclavage. Des années après, parce que je ne l'ai pas apprise à l'école. On m'a appris le commerce triangulaire, mais c'est tout. J'ai pas appris la traite négrière de l'esclavage. Donc, mais lorsque j'ai découvert cette histoire et que j'en ai été enragée d'abord, j'ai compris que pour ne pas me perdre, pour ne pas sombrer dans un naufrage de haine et de fureur, il fallait trouver des lueurs, et ces premières lueurs, c'était évidemment les abolitionnistes, de savoir que de tout temps, il y a eu des personnes qui ont dit non. Et puis, lorsque il a fallu répondre notamment à des jeunes qui découvraient cette histoire aussi, je me suis rendu compte qu'il fallait leur expliquer que ça ne leur donnait pas de droit. Au contraire. Qu'ils allaient grandir en étant attentifs aux autres. Et c'est un peu ce que dit Lévinas, qui parle pas de la traite négrière de l'esclavage, ni même en parlant spécifiquement de la Shoah. lorsque Lévinas parle du visage de l'autre.
Oui.
Et de la façon dont l'autre nous renvoie à soi, mais surtout de la façon dont l'autre nous rappelle les limites de notre pouvoir, les limites de notre puissance. Et ce qu'il y a de magique, d'une certaine façon, il ne le dit pas ainsi, bien sûr, mais ce qu'il y a de magique dans le visage, dans l'apparence du visage, c'est qu'on est plus anonyme, on est plus anonyme. Et du coup, le visage pose immédiatement la relation. Et vous savez à quel point Glissant est attaché à la relation.
À la relation.
C'est une audace hein, de passer de Lévinas à Glissant et de Glissant à Lévinas.
Ben vous l'avez fait.
Mais je me permets de tout. Je suis une personne hardie.
France Culture, matière à penser, Patrick Boucheron.
En compagnie de Christiane Taubira et de Miles Davis, Carnegie Hall en 1961, vous nous avez amené le concerto pour Aaron West. Pourquoi ?
C'est un morceau avec lequel j'ai eu un peu de mal au début. Moi, oui. Miles Davis m'a enseigné ce que j'appelle l'éthique du risque.
Parce qu'il se remettait tout le temps en
cause. Constamment. Il arrivait au sommet de son art. Et changeait de style. Il s'aventurait, y compris dans des styles très nouveaux, de la génération suivante, ou même de la génération d'après. Et à chaque fois, il brillait. À chaque
Vous
fois,
l'avez suivi partout,
pénétrait.
Dans le free jazz dans...
Je l'ai suivi dans tout. Il y a quelques morceaux. Alors évidemment, je meurs pour Kind of Blue, mais la terre entière meurt pour Kind of Blue, donc c'est pas un exploit.
Vous êtes déchiqueté par Kind of Blue, écrivez-vous dans votre dernier livre.
C'est que ce soit Blue and Green, enfin bon, bref. Donc, Miles Davis, alors ça, Sketches of Spain, est un disque qui m'a troublé. Il est troublant, mais il est intéressant lorsqu'on s'interroge sur le nous.
Oui, c'est ça.
Il est intéressant parce que c'est une musique. Alors évidemment, il y a du classique, hein, il y a les standards classiques, puisque c'est une musique bon, espagnole, même si c'est pas de l'opéra en tant que tel. Mais enfin bon, c'est de Joaquim Rodrigo, je crois. Mmh. Et là, c'est Miles qui joue avec Gil Evans. Et il y a un cheminement là, donc on est dans le classique et le blues s'invite et le jazz et on continue le jazz, y compris le jazz modal. Donc c'est une traversée, c'est une traversée. Et moi je suis profondément une vagabonde. J'aime traverser les frontières, et le monde physique, mais le monde culturel, le monde esthétique, le monde littéraire, le monde poétique. J'aime traverser. Et avec Miles, non seulement il m'a donné cela de précieux, l'éthique du risque, ne jamais se satisfaire de sa situation, ne jamais se complaire dans la réussite ou le succès, toujours se remettre en cause, toujours se remettre en question, toujours se remettre en danger, toujours prendre des risques. Moi, Miles m'a donné ça, mais de façon absolument fulgurante, mmh. fulgurante. J'étais ado lorsque j'ai reçu ça de Miles, comme s'il avait écrit pour moi. Il l'a écrit nulle part, évidemment. Hein, c'était sa vie.
Oui. Bon. Mais vous en parlez de sa vie dans vos mémoires. Vous avez écrit vos mémoires, Christiane Taubira. Ça s'appelle Mes Météores, combat politique au long cours chez
oui,
Flammarion en 2012.
Voilà, ce sont pas des mémoires, c'est des combats politiques au long cours. Je croyais avoir cessé de me battre, donc j'ai décidé de livrer les explications que j'estimais dues pour qu'on comprenne les combats que j'ai livrés.
Alors vous évoquiez Miles Davis, pardon, je vous coupe, et vous au fond vous dites bah sa musique vient aussi d'un chagrin d'amour une
avec
insondable
Juliette, ouais,
saudade
Juliette
avec Juliette Gréco, et vous dites qu'il n'aurait jamais dû revenir dans l'Amérique ségrégationniste.
Ouais. Raciste, où il se fait tabasser, comme... bon, voilà, on n'a pas tabassé qui que ce soit d'ailleurs. Mais non, parce que d'abord j'aime les histoires d'amour. Ceci étant, j'aime tellement les histoires tragiques que j'aime d'autant plus l'histoire de Miles et de Juliette Gréco que j'ai rencontré Juliette Gréco d'ailleurs. J'aime d'autant plus les histoires de Miles. Je n'ai pas osé. Mais bon, ça fait des années que je trimballe leur histoire d'amour dans mes bagages, comme si cette histoire m'appartenait. Mais voilà, elle est magnifique, elle est sublime, parce qu'en plus, Miles est parti alors qu'il lui avouait son amour. Il disait d'ailleurs que c'est la première fois de sa vie qu'il se sentait un homme à part entière, parce que dans le regard de Juliette, les mots de Juliette, l'attitude de Juliette, il était un homme, il n'était plus un sale nigue. Donc, et malgré ça, il retraverse l'Atlantique. Il a du succès professionnel ici. Il est venu, comment il rencontre Juliette Gréco? Il est venu pour Ascenseur sur l'échafaud.
Eh ben oui.
Quelle merveille, Ascenseur sur l'échafaud. D'un bout à l'autre. D'un bout à l'autre. Ça donne d'ailleurs au film, qui est un très beau film par ailleurs, même si Louis Malle était très jeune, mais c'est un très beau film. Et puis, évidemment, Jeanne Moreau. Mais ça donne une consistance à l'épure de la musique de Miles. Sur les images, ça donne une consistance à ce film.
Consistance.
Donc voilà,
du
il quitte,
nous y
voilà.
Sommes.
Il réussit et il s'en va. Il s'en va, il quitte Juliette, il quitte l'amour, il quitte le succès, il s'en va dans un mec raciste. Bon, voilà. Donc il m'a donné l'éthique du risque, il m'a donné ce goût de la traversée aussi. Et là, dans ce concerto...
Sketches of Spain, oui.
Dans Sketches of Spain, voilà.
Concerto pour Aranjuez, oui.
Pour Aranjuez, il promène la musique. Il promène la musique, vraiment. Il la promène et il traverse les univers culturels, les univers musicaux, les univers esthétiques, il les traverse. Et voilà, donc... lorsque on est face à des personnes crispées, lorsque on voit ressurgir les espèces d'hystérie identitaire, lorsque on voit des gens dégager une énergie folle juste pour détester les autres, on en revient à l'essentiel, aux personnes qui savent traverser. Parce que Édouard Glissant encore disait « Je peux échanger avec l'autre ».
Oui.
Sans me perdre ni me dénaturer. Donc la relation à l'autre est essentielle. Et c'est d'ailleurs l'utopie de Glissant, hein, c'est sa définition de l'utopie, c'est vraiment la relation à l'autre. Et le rassemblement, l'accumulation de toutes les beautés, de tous les malheurs, de toutes les valeurs du monde. Donc voilà, ces gens-là, Miles Davis et d'autres...
Toni Morrison.
Ah, oh, Toni Morrison. Quelle merveille.
La langue maternelle, la langue dans laquelle on rêve, c'est bien là le chez-soi, écrit-elle, et vous y revenez souvent.
Oui.
C'est au fond cette patrie aimable qu'est au creux de la langue ce qui nous accueille et au fond nous élance et nous relance sans cesse.
Oui, c'est une parole d'une intensité, d'une force, et dans sa simplicité. La langue maternelle, c'est là le chez-soi. Et elle dit ça, en fait, il me semble qu'elle disait ça en 2006, lorsqu'elle était en résidence au Louvre, au musée du Louvre. Et elle a expliqué, parce qu'elle réfléchissait à l'étranger. L'étranger à la maison, l'étranger chez soi, l'étranger, le chez-soi de l'étranger, elle réfléchissait à tout cela. Et elle aboutit à cette conviction, qui est une vérité éclatante, aveuglante même. La langue maternelle, voilà le chez-soi, oui. La langue dans laquelle... Et Toni Morrison, alors Toni Morrison, ça fait partie vraiment de mon panthéon,
oui.
Mais vraiment, je ne pourrais pas vivre sans Toni Morrison, sans Miles Davis, sans Keith Jarrett, sans Edouard Glissant, sans François Fanon. Bon, il y a des gens sans qui je ne pourrais pas vivre. Ce sont des personnes qui ont illuminé ma vie. Toni Morrison, elle a une façon d'explorer, de vous conduire à vous, à partir de ces personnages, de vous obliger à entrer en vous, de vous obliger à entendre des petites voix qui étaient inaudibles, mais qui vous interpellaient. Et sans certitude,
oui.
Sans certitude. J'aime beaucoup le doute. J'aime beaucoup le doute. Le doute est sans doute mon ressort le plus puissant. N'être sûr de rien, mais être sûr. Être sûr de ne pas m'accommoder de l'injustice. Être sûr de ne pas abandonner celle ou celui qui a besoin juste qu'on lui... tendre la main ou le coude ou qu'on sourit, être sûr de ne pas trahir ma conscience, être sûr de ne pas tricher, être sûr de... Voilà, je suis sûr de ça, ça sont mes certitudes.
Comment on fait ?
Et en dehors de cela...
Pardon, je vous interromps, Christiane Taubira, mais justement, dans ce monde-là, dans notre monde, dans ce monde politique, vous dites qu'en 2012, vous faisiez le bilan de votre vie, mais vous avez repris le flambeau. Et quel flambeau ? Garde des Sceaux et une deuxième loi qui porte votre nom et qu'il faudra défendre aujourd'hui. Comment on fait dans ce monde-là, lorsque vous dites « je ne suis que ce doute » face à ceux qui ne doutent de rien, ceux qui pensent vrai ce qu'ils disent au seul motif que c'est eux qui le disent, ceux qui adhèrent avec une joie féroce à leurs propres convictions. Comment on fait ?
Il y a quelque chose de terriblement meurtrier dans ces espèces de certitudes définitives. Moi, je fais place au doute. J'ai des certitudes bien ancrées, bien assises. Voilà, j'en ai énoncé quelques-unes. Mais je fais place au doute. Je m'ouvre au doute.
Et c'est pas une faiblesse. On est bien d'accord que c'est pas une faiblesse.
Ah, mais c'est une puissance, mais c'est une force.
Y compris politique.
Inouïe. Surtout en politique.
Surtout en politique.
Surtout en politique. Moi, chaque fois, j'ai mené, bon, il y a, dans le milieu judiciaire, il y a une troisième loi Taubira, c'est la réforme pénale.
Oui.
Qui a été très contestée aussi. Mais j'écoute. Je me rends disponible. J'entends. Et sincèrement, j'entends. Franchement, j'entends. Et je m'interroge. Franchement. Sans la moindre complaisance. Et je cherche. Et je cherche. Et je vais chercher les réponses. Et s'il le faut, je modifie ce que j'avais compris. J'enrichis ce que j'avais compris jusque-là. Je vais écouter. Alors, les personnes qui sont inspirées par des idéologies racistes, xénophobes, antisémites, enfin tout ce qu'on peut imaginer de rejet d'autres pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils pensent, pas pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils sont. Cela, évidemment, je les tiens à bonne distance sanitaire. Mais pour le reste, j'écoute et je m'interroge. Et c'est de là que je puise ma force aussi. Parce que lorsque j'ai décidé d'avancer, mais je fends la mer. J'avance. Rien ne peut m'arrêter. Parce que je suis sûre que j'ai exploré les choses. Je suis sûre que je ne vais pas nuire et que je vais faire du bien. Parce que c'est ça ma préoccupation. D'abord ne pas nuire, primum non nocere, et ensuite faire du bien. Faire du bon, faire du bien.
Vous écrivez, Christiane Taubira, « J'héberge une tristesse enragée ». C'est depuis ce lieu-là que vous voulez être juste.
Oui, oui, je crois. Genre moi, je ne peux pas m'accommoder. Je ne supporte pas les injustices. Je ne les supporte pas. Je veux dire que c'est presque physique. Je ne les supporte pas.
Mais dans une société qui les supporte très bien.
Oui.
Et
oui.
De mieux en mieux.
Ben, c'est pour ça que je suis intranquille. C'est pour ça que je suis intranquille. Et c'est pour ça que c'est pour moi un bien précieux, cette intranquillité. Je ne veux pas la laisser s'assoupir, cette intranquillité. Je l'entretiens. Je l'arrose. Donc oui, on s'accommode. Les individualismes sont triomphants. Voilà. Les égoïsmes sont bruyants. Les injustices sont terribles. Elles font beaucoup, beaucoup de bruit. Elles font surtout beaucoup, beaucoup de tort. Mais elles nous font collectivement du tort parce que les injustices écrasent des destinées qui nous feraient du bien. Combien de personnes, d'enfants, meurent de maladies qu'on sait soigner, mais meurent, alors que parmi ces enfants, il y en a sans doute qui nous apporteraient l'éblouissement d'une poésie complètement inattendue, qui nous apporterait une découverte scientifique, qui nous apporterait une conception de l'humanité et qui rendrait plus simple le rapport à l'altérité. Combien de ces enfants la meurent de choses qu'on pourrait éviter. Donc, on s'appauvrit, soit. On s'appauvrit.
Oui. Marielle Massé dit de nous, puisque on termine cette semaine consacrée à ce pronom politique, nous. Marielle Massé dit « nous », c'est le pluriel de « seul ». C'est pour ne pas être seul avec, effectivement, sa rage, sa tristesse, son sentiment, son désir de consolation, qu'on fait de la politique, qu'on s'ouvre aux autres, qu'on essaye de construire un « nous » qui respire.
Mais moi, ma rage, c'est un moteur. C'est un moteur, elle ne m'écrase pas, elle n'écrase personne. Mais c'est un puissant ressort intérieur. Donc, je ne conçois pas la vie sans les autres. Voilà, je sais que l'altérité doit s'apprendre, que la différence... Édouard Glisson encore, il dit que la différence n'est pas ce qui nous sépare, c'est la particule élémentaire de la relation. Donc, le nous est constamment dans ma tête, mais ça ne veut pas dire... J'aime la solitude individuellement. J'aime être seule à écouter de la très belle musique, même si j'aime aller à l'opéra, au concert, mais j'aime être seule aussi. J'aime être seule à lire, même si j'aime écouter aussi de la lecture en public. Voilà, donc, nous, moi, je, nous, voilà, nous, mais quel sens ça peut avoir de renoncer au nous, ou d'ignorer le nous, ou de réfuter le nous? Quel sens cela peut avoir? Sinon un sens suicidaire. Nous, je sans nous, ça n'existe pas.
Ça n'existe pas. Et
c'est
vous
comme
écrivez
la fourmi de 18 mètres.
Et vous écrivez quelque part toujours, Christiane Taubira, je ne serai jamais inconsolable.
Non.
Jamais.
Non.
Merci Christiane Taubira.
Merci Patrick Boucheron, ce fut un plaisir.
Ah non, pour moi, pour nous. Pour nous. Matière à penser, Christiane Taubira, Joséphine Lampreya, Cédric Chatelus, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Desvignes, Patrick Boucheron. Dès lundi, je cède bien volontiers mon siège à Antoine Garapon qui va accueillir Bernard Harcourt pour parler toute la semaine de... Christiane Taubira, l'aveu. Bonsoir.